Donc bonne année à tous, bienvenue. C'est l'époque des vœux, donc c'est l'époque où on se souhaite du bonheur, où on se souhaite une heureuse année, où on se félicite au sens premier, puisque Félix en latin ça veut dire heureux, celui qui a le bonheur, et c'est le sujet de notre année. On a parlé du bonheur, de la joie, du plaisir, on n'a pas parlé de la félicité. Mais la félicité, c'est dans la tradition latine une des formes du bonheur et même un bonheur plénier. Et à l'époque des vœux, effectivement, au début du mois de janvier, après s'être embrassé sous le gui, selon la vieille tradition celtique, druidique, on se souhaite effectivement du bonheur. Et c'est intéressant parce que c'est le thème de notre année, donc je vous souhaite du bonheur, je vous félicite. Au sens vraiment propre du mot. Et il se trouve que nous sommes à peu près, nous engageons la deuxième partie de notre parcours déjà, de cette année, sur bonheur et joie dans la Bible. Et nous avons proposé, donc, au cœur de l'année, au cœur de l'hiver, au cœur de notre méditation sur le bonheur. Bienvenue, félicitations, puisqu'on parle justement de l'étymologie de ce mot qui veut dire souhaiter du bonheur, de la joie. Nous avons choisi l'évangile des béatitudes, c'est-à-dire l'évangile des félicitations, littéralement. Les béatitudes ne sont pas des bénédictions. Le geste de la bénédiction, de la beracha en hébreu, engage la relation avec Dieu, la relation proprement religieuse. Dieu bénit l'homme, l'homme bénit Dieu, c'est-à-dire il dit du bien, mais il ne félicite pas. C'est autre chose. Donc il y a vraiment deux champs sémantiques ou deux champs lexicaux très différents. Le champ de la bénédiction, de la beracha, que l'on trouve par exemple dans la messe catholique au moment de l'offertoire, tu es béni, Dieu de l'univers. Donc on dit du bien de Dieu et on attend que Dieu dise du bien de l'homme. Dieu dit du bien de l'homme depuis le début de la création. Mais il y a donc un autre champ de relation qui est le champ de la félicitation, de la béatitude, où l'on souhaite du bonheur dans un esprit de gratitude, dans un esprit eucharistique, pour les beautés, les bontés de la création. Mais c'est un type de relation qui engage d'homme à homme. On ne félicite pas Dieu. La béatitude ne s'adresse pas à Dieu. Donc, lorsque ce soir on évoque ce mot de béatitude, on est bien dans ce champ de la félicitation, c'est-à-dire où on souhaite du bonheur. Jésus félicite les doux, les artisans de paix, etc. On parle aussi quelquefois de makarisme, puisqu'en grec c'est makarios. Makarios veut dire heureux. On se souvient tous de l'archevêque Makarios qui régnait d'une main de fer sur Chypre dans les années 70, à la grande époque de la théocratie orthodoxe, que nul ne regrette. Et makarios veut dire heureux. Donc on parle de makarisme, de béatitude, de félicitation. Beatus, c'est celui qui est heureux, au-delà du Félix. Le Félix est heureux d'un bonheur terrestre, le Beatus d'un bonheur déjà presque béatifique. Mais cette échelle du bonheur, on peut finalement toujours l'interroger. On peut méditer à l'infini sur les variations, hein, sur le camaïeu qui existe entre le makarisme, la béatitude, la félicitation. Mais on est plus dans ce registre-là que dans le registre de la bénédiction. Alors, ça ne nous empêche pas, bien sûr, de souhaiter que cette année soit aussi une année de bénédiction. Mais voilà, nous sommes à mi-route de notre parcours et je crois que c'est ce très grand texte qui nous attend. Il se trouve lui-même au cœur d'une très grande composition littéraire, qui est le Discours sur la montagne, qui est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature néo-testamentaire. Et donc, bien sûr, les 8 béatitudes, qui font un peu contrepoint aux 10 paroles de Dieu, aux 10 commandements, sont le cœur de cette grande composition littéraire théologique. Voilà peut-être un peu pour situer, et le psaume 1, qui est en en parallèle et qui est l'origine, qui est la matrice de ce texte.
Alors, en t'écoutant, je pensais qu'en fait, il y a quand même un passage dans le par exemple, à la fin de la brebis perdue, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change, qui se convertit. Et donc, quelque part, dans notre conversion, on réjouit Dieu, en fait. Il y a cette joie de Dieu. Alors, c'est vrai que ça, c'est assez rare, quand même. On voit rarement la joie de Dieu. On pourrait dire, dans un sens, quand Dieu vit que cela était bon, dans le début de la Genèse, quand il y a ce tove, c'est un des deux mots pour dire le bonheur, en fait. Le bonheur, il y a deux mots en hébreu pour dire le bonheur. Il y a comme ici, c'est Ashrei, qui veut dire un bonheur qui est dynamique. Un bonheur, c'est le bonheur d'avancer, finalement. C'est à la fois être heureux et à la fois être en marche ou en marche vers un accomplissement, vers une construction, avancer vers... Voilà. Et l'autre bonheur en hébreu, c'est Tov, c'est la contemplation du bon, finalement. Et donc Dieu a ce bonheur-là, je crois. Et donc quand il contemple un homme qui... Je dirais, avance, quand il contemple de la bonté dans l'homme, il y a une joie de Dieu. On rend Dieu heureux, joyeux, je pense quand même, non? Je ne sais pas. Alors, cette béatitude, c'est vrai que ces béatitudes, tu disais, il y en a 8. Alors, c'est vrai que c'est un chiffre souvent qui est assez symbolique, en fait. C'est un chiffre rond, en fait, comme 10. 10, on pense plus à l'action des 10 doigts de la main, donc... C'est un petit peu un chemin d'action proposé à l'homme, les 10 commandements, les 10 paroles. Il n'y a pas marqué 10 commandements, oui, c'est 10 paroles, parce que la première, en fait, ce n'est pas un commandement, c'est une contemplation, une confession de foi dans un Dieu qui est source de libération. Ici, c'est 8. Alors, c'est quoi ce chiffre 8, chiffre rond de 8 dans le christianisme, c'est assez connu, parce que les baptistères sont à 8 côtés, en fait, à 8 pans, en général. Aussi bien les octogonaux, c'est aussi bien les cuves baptismales, les fonds baptismaux, que les baptistères anciens, c'est-à-dire des bâtiments qui étaient spécifiquement pour le baptême, parce qu'à l'origine, souvent, il y avait un bâtiment spécifique pour le baptême, et puis ensuite, on pouvait aller dans l'église. Et donc, ils sont à 8 côtés, parce que c'est... Une étape de plus sur le cheminement de la création. Finalement, la création, elle est en 7 jours. Dieu crée le monde en 7 jours. Le monde matériel dans les 6 premiers jours. Le 7, il y a la bénédiction, comme tu le disais, Jérôme. Et le 8, bah, c'est un cran de plus. Ben, peut-être que c'est ça, finalement. C'est peut-être la joie, le cran de plus.
Le 8e jour.
Le 8e jour, voilà. C'est le 8e jour d'une semaine qu'en compte 7. Donc ça veut dire que le compteur est explosé, on est en dehors du temps et on entre déjà dans la vie éternelle, dans une autre temporalité. D'ailleurs, vous voyez, il y a marqué le royaume des cieux est à eux. Il n'y a pas marqué sera à eux. C'est pas une prime avec le paradis. On est déjà dans le royaume de Dieu aujourd'hui et maintenant. Donc on est dans le 8e jour. On est dans ce temps qui n'a pas de fin. C'est pas un temps futur, hein. C'est un temps présent qui n'a pas de fin. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a le 8 tout rond, en fait. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont... Et c'est pour ça que les chrétiens, très rapidement, ça a été ensuite devenu... ça a été légiféré après par Constantin, quand il est devenu quand l'empereur de Rome est devenu chrétien. Mais on voit directement avec Paul que c'était... ce qu'ils appelaient le jour du Seigneur, bah, c'était le lendemain du sabbat qui se réunissait. C'est le jour de la résurrection, c'est le jour de ce temps nouveau, en fait. Voilà. Alors, en fait, c'est le début de l'évangile, pratiquement. C'est le début du ministère de Jésus. Bon, il parle un petit peu avant, je crois, quand même. Mais, bon, là, finalement, on attaque les choses sérieuses, quand même. Et donc, comme souvent... Mais on dira la même chose pour le psaume 1, quand il y a le début des livres dans la Bible, souvent comprend un peu la clé d'interprétation ou le plan du truc, en fait, l'objectif, la visée. Et donc, ça commence par « heureux », c'est quand même c'est une clé d'interprétation de l'ensemble de l'Évangile, à mon avis. C'est une... voilà, c'est la clé d'interprétation. C'est-à-dire, voilà, c'est la... J'allais dire, c'est le critère qui est indispensable pour déterminer si notre lecture, notre interprétation d'un passage biblique, d'une parabole, d'un passage, eh bien, si elle est pertinente ou non. Est-ce que il y a dans notre lecture quelque chose qui dit cet acte de Dieu en Christ pour rendre l'homme heureux, finalement, pour lui donner ce bonheur dont on parle ici, qui est un bonheur un peu paradoxal, qui est dans une qualité de... Une qualité de... Je sais pas quoi, de présence à sa propre vie, au monde, une qualité de... Oui, c'est ça, une qualité de bonheur qui est quand même assez particulière.
Est-ce qu'on peut le lire peut-être le
psaume 1? Peut-être qu'il faut le lire quand même. Ou le psaume 1 ou
le psaume 1 avant les béatitudes pour situer un peu, parce que Jésus se situe lui-même dans un genre littéraire, ce qu'on appelle donc le macarisme, hein, c'est un petit peu cuistre peut-être de le dire comme ça, qu'on retrouve aussi dans les livres sapientiaux, dans le livre des Proverbes. En particulier dans des phrases que tout le monde connaît, hein. Heureux celui qui met sa crainte dans le Seigneur, heureux l'homme qui craint le Seigneur, heureux le peuple dont Adonai est le Seigneur, etc. Ce sont des formules que l'on retrouve dans toute la littérature sapientielle. Et donc, évidemment, lorsque Jésus choisit de commencer en disant... Alors, il parlait araméen, mais l'expression hébraïque, c'est « Ashrei », on va y revenir tout à l'heure. André Chouraki, dans sa tradition, en a fait un usage bien, bien connu, très dynamisant. Donc, Jésus se situe, bien sûr, la nouveauté de l'ère messianique prend appui sur toute une tradition et n'est pas lisible en dehors d'une tradition littéraire, prophétique et sapientielle hébraïque. Donc je pense qu'il faut lire ce psaume premier, d'autant plus que dans une grande tradition juive, talmudique, rabbinique, on dit souvent que le psautier, les Tehillim, c'est les psaumes, les 150 psaumes, sont un miroir de concentration de toute la tradition à la fois légale, c'est-à-dire la Torah, et prophétique. C'est une sorte d'abrégé ou de résumé. Il y a tout un courant dont Jésus était peut-être proche, le courant pharisien qui est à l'origine du courant rabbinique contemporain, et puis tout le Talmud aussi qui trouve son origine dans la communauté pharisienne, hein, qui était une grande communauté, hein, il ne faut pas l'entendre avec... Les résonances un peu péjoratives que nous avons dans l'oreille, il est probable que cette tradition, Jésus la connaissait, à savoir donc que les psaumes qui sont priés, qu'il a priés, y compris la veille de sa mort, sont un abrégé, un concentré de toute la Torah et de toute la tradition d'Israël. Et on disait même que le psaume premier lui-même était un abrégé de tout le psautier. Donc le psaume premier qu'on va entendre est un abrégé d'abrégé, d'une certaine manière. Et on disait même que le premier verset était un abrégé du psaume lui-même. Donc le premier verset, le premier mot d'ailleurs, est un résumé de résumé de résumé, au sens le plus noble du mot résumé, de toute la tradition d'Israël. Alors justement, on va commenter ce premier verset qui est loin d'être anodin. Si quelqu'un chante, ou je ne sais pas, quelqu'un veut bien lire... On a quelques lecteurs attitrés. Voilà, comme vous voulez. Voilà.
Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au banc de son cœur, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans des ruisseaux, il donne du fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd.
Alors ça, je trouve que ce texte est d'abord, il est très réjouissant. Mais en plus, il est intéressant au point de vue de la façon de comprendre le texte biblique. Parce que, si vous voulez, c'est vrai que ça peut faire peur, vous voyez, on peut y lire une menace, en fait. Avec, il manquerait un verset à la fin, il est marqué « à bon entendeur, salut », vous voyez. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas l'évangile, c'est-à-dire ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est, vous savez, c'est la dernière menace avant le jugement, vous voyez, comme des fois, on voit, dans les routes, on voit « dernière station d'essence avant l'autoroute », vous voyez. Là, c'est la même chose. Ça veut dire, bon, dernier avertissement avant le jugement dernier. Donc maintenant, faites attention, parce que si ça ne va pas, vous allez être grillé sur place. Et ce n'est pas ça du tout, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que quand on lit ça, visiblement, où est-ce qu'on se reconnaît ? On se reconnaît dans le pécheur ou on se reconnaît dans le juste, si vous voulez. Visiblement, on est à la fois des deux côtés. Qui n'a jamais s'est assis au banc des moqueurs, si vous voulez ? C'est vrai que ça peut arriver de rigoler. On peut voir quelqu'un se prendre les pieds dans son lacet. C'est la base même du bon humour, finalement. Ça fait rigoler. Enfin, je veux dire, on a du mal à s'empêcher. Voilà. Donc, en fait, on est tous un peu ça. S'arrêter sur le chemin des pêcheurs. Qui n'est pas pêcheur ? Un peu en panne sur le bord de la route. Prendre le parti de la méchanceté. Si vous voulez, bon, voilà. Et puis, de l'autre côté, tout ce qu'il fait réussit. Je veux dire, bon, il ne faut pas non plus. Je veux dire, les gens n'étaient pas naïfs. Ils savaient bien que ce n'était pas comme ça. Et puis finalement, le jugement, vous voyez, ils sont comme la balle que disperse le vent. Ben, déjà ça veut dire que comment est-ce que le grain de blé peut pousser sans la paille et puis sans la petite enveloppe qui est autour ? C'est impossible.
Il y a deux ailes d'ailleurs, il y a une erreur.
C'est la balle.
Oui, oui. Ouais. Autant pour nous. Hein.
Et donc, si vous voulez, on peut pas en vouloir, on peut pas. L'agriculteur en veut pas au blé en disant, bah, c'est dégueulasse parce que j'ai essayé de manger les petits blés, bah, c'est tout piquant, c'est pas digeste. Bah oui, fallait d'abord enlever la paille. Donc, vous voyez, c'est extrêmement bienveillant parce que l'esprit, le vent, c'est l'esprit de Dieu. Il vient disperser, enlever ce qui est méchant. Mais dans l'épi, on a, si vous voulez, cette longue tradition qui traverse toute la Bible, l'ancien comme le nouveau. Le jugement, ce n'est pas une sélection des personnes. Comme à l'entrée d'Auschwitz, vous savez, il y avait un officier qui était là, qui dit, bon, lui, il peut encore un peu servir, on le garde, on le met à gauche ou à droite, je ne sais plus. Lui, bon, trop jeune, trop vieux, pas assez costaud, maigrichon, trop gros, hop, on le fait passer de l'autre côté, et il va au four directement. C'est pas comme ça, c'est-à-dire ce jugement, souvent c'est plutôt une purification, un tri dans la Bible, donc c'est souvent comparé, le jugement est comparé à une moisson, à un vannage, et on va récolter les grains. Donc vous voyez, c'est ça qui est dit ici, c'est-à-dire c'est un jugement qui traverse chaque personne pour garder ce qui est bon dans chaque personne. Donc il n'y a pas de menace. Il y a à dire, bon, regardez en vous, en chacun, ce qui est de l'ordre du bon grain et ce qui est de l'ordre de la paille, en fait. Et en chacun de nous, il y a un peu de bon grain, il y a un peu de paille. Et il y a cette promesse d'un jugement qui est en fait l'amour. Parce que l'amour, c'est bien ça, c'est ce qui garde le meilleur de chacun. Et puis ce qui est moins bon, on souffle dessus pour nous en libérer. Donc, on peut le voir, si vous voulez, comme une menace, on peut le voir au contraire comme une manifestation de l'amour, ce psaume, en fait. Et puisque le programme et la clé d'interprétation, c'est heureux, c'est-à-dire le projet de Dieu pour rendre heureux chacun, à mon avis, c'est clair que le projet de Dieu, c'est effectivement de nous libérer de ce qui est en nous, de la méchanceté, de la moquerie, du péché, pour essayer, de nous élever. Et donc ce qu'il nous propose, c'est d'être enraciné dans cette parole, dans ce qu'il nous donne, en fait, dans la loi ici, mais on pourrait voir ce que c'est que ce mot Torah, en fait, et on voit le service que Dieu rend, tout pour susciter notre croissance, notre créativité personnelle, et puis notre libération de ce qui peut être en nous mauvais.
Alors, une fois n'est pas coutume, je vais puiser dans la tradition de la Kabbale. C'est assez rare qu'on parle beaucoup de la Kabbale ici, de la tradition qui est une grande tradition, vous savez, hein, d'interprétation ésotérique juive, dont le grand livre est le Zohar au bas Moyen-Âge, au XIIIe, XIVe siècle, le livre des splendeurs. Et alors, comme je disais tout à l'heure, c'était assez drôle, hein, que Évidemment, le premier psaume, c'est celui qui donne la clé des autres psaumes, et que le premier verset lui-même, voilà, et que le premier mot lui-même, eh bien, allons jusqu'à la première lettre. Et la première lettre de Ashrei, c'est l'Aleph, le fameux Aleph. Vous connaissez peut-être ce petit apologue, ce petit conte de la tradition kabbaliste qui dit que les lettres de l'alphabet viennent, bonsoir, viennent récriminer contre Dieu, viennent se plaindre auprès d'Adonai, du Seigneur, d'Elohim, parce que nul n'a eu la première place sauf le Bet, puisque la Bible, la Torah, commence par Bereshit. Donc c'est la lettre Bet. Bet, c'est aussi le mot qui veut dire la maison, la construction. Et le Bet est une lettre qui est ouverte vers la gauche. Vous savez que l'hébreu se lit de la droite vers la gauche, donc il y a une ouverture vers l'avenir. C'est la maison, mais la maison ouverte vers l'avenir. Et c'est aussi le fils et la fille, Bat, Ben. Donc il y a évidemment l'ouverture vers une filiation et tout ça. Donc le symbolisme des lettres, tel que la Kabbale nous le transmet, est très intéressant. Et évidemment, la lettre Aleph se plaint, parce que Aleph, c'est une espèce d'X, et c'est la lettre de l'unité. Et Aleph dit à Dieu, mais enfin, Adonai, je suis l'unité, tu es l'unique, moi-même, je suis la lettre la plus appropriée, la plus propre à dire ton unicité et ton unité. Et Dieu répond, c'est assez beau d'ailleurs dans ce petit conte, oui, mais toi, je t'ai gardé pour deux moments dans la Torah, pour les 10 paroles, qui commence par Aleph, et pour le premier psaume, qui commence par Aleph également. Voilà. Ce qui semblerait dire que dans une certaine tradition d'interprétation un peu ésotérisante, ce verset est vraiment capital. Et que nous dit ce verset, qui commence donc par un Aleph ? Il nous dit « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas. » Le péché, dans la plus antique tradition juive abrahamique, c'est de s'arrêter. C'est de figer un processus. C'est de ne plus être en chemin. Et de s'asseoir, ce qu'on fait, c'est-à-dire de s'installer. Vous savez, Lot, le neveu qui décide de s'installer, le neveu d'Abraham. Alors qu'Abraham est précisément celui qui a cru et que la foi a mis en chemin dans la nuit, parce qu'il ne sait pas où il va. Et donc, la conformité au dessein de Dieu sur l'homme, c'est d'accepter cette partance, cette errance presque, parce qu'on est toujours entre nomadisme, vagabondage. Il y a une mémoire nomade chez Israël. Et beaucoup de Juifs ont toujours dit, notre problème, c'est de nous être sédentarisés d'une certaine manière. Le rapport à la terre est très très complexe. La terre n'est pas un objectif en elle-même, ce que disent certains juifs ultra-orthodoxes d'ailleurs, qui ne sont pas très sionistes pour cette raison, qui pensent qu'il peut y avoir une idolâtrie de la terre. Or, justement, la raison d'être du judaïsme serait d'être toujours en mouvement, alors physiquement, mais aussi spirituellement, d'être toujours celui qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas. Et qui ne s'assied pas où ? Au banc des moqueurs. Il n'y a rien de pire, effectivement, pour l'homme de foi, pour le fidèle, que le moqueur, le railleur, Voltaire. L'esprit français, vous savez, qui ricane. Bon, je ne vais pas citer d'autres noms, mais Voltaire est un génie, bien sûr. Mais vous savez, cet esprit qui met à distance, cet esprit qui n'aime pas, qui ne connaît pas l'amour et qui n'a pas d'empathie, et qui rit, qui ricane, qui raille, qui tourne en dérision. Et la tradition judéo-chrétienne n'est pas tendre avec cette attitude. Et pour ma part, je trouve que c'est magnifique que ce premier verset nous dise de ne pas nous arrêter en chemin, de continuer, voilà, à bouger, à chercher. Il y a la vie est mouvement, et la vie conduit au bonheur, et le bonheur est mouvement, même si on ne sait pas trop ce qu'on fait, ce qu'on cherche, etc. Et comme disait De Gaulle, j'aimerais bien que les chercheurs trouvent, mais là c'est Dieu, donc il est au début, il est à la fin. Et On ne s'assied pas au banc des railleurs, des moqueurs, de ceux qui ricanent, de ceux qui tournent en dérision. Alors, le premier mot, heureux, c'est Ashrei, effectivement. C'est un mot, alors là, doctus cum libro, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai consulté avant un ouvrage de référence qui dit qu'il y a 45 occurrences de ce mot dans l'Ancien Testament et que ce mot est toujours appliqué à l'homme, jamais au bonheur divin. Donc, c'est pour ça que, quand je parlais de félicitations, je disais que ça restait effectivement à un niveau humain. Donc, il y a quelque chose d'humain. Ce n'est pas un bonheur hédoniste, mais c'est un bonheur humain, quand même, Ashrei. Et, on va en parler tout à l'heure, André Chouraki a fait le lien entre ce mot, Ashrei, et une racine, Ishar, qui désigne la rectitude, le fait d'aller en avant, d'aller droit, d'aller dans le bon sens, d'être sur le bon chemin.
Oui, alors c'est vrai que cette racine, de toute façon, Aleph, Shin et puis Ret, ça veut dire à la fois être heureux et à la fois être en marche. Et donc Chouraki a tout à fait raison quand il traduit dans les Béatitudes, voilà, en marche les bienheureux, par exemple. Alors ici, quand même, le premier, c'est qu'il y a marqué là qu'il ne prend pas le parti des méchants, mais c'est qu'il ne marche pas dans le parti des méchants.
Qu'il ne marche pas.
Donc c'est vrai que, bon, à la limite, il y a une... Peut-être c'est le pire, voilà, c'est de marcher dans le mauvais sens, hein. Bon, s'arrêter, finalement, c'est la même chose, s'arrêter sur le chemin des pécheurs et s'asseoir au banc des moqueurs. Peut-être que les moqueurs, comme tu dis, c'est l'inverse du jugement bienveillant qui est proposé ici, c'est-à-dire qu'on va aller justement chercher, discerner dans chacun, en particulier dans l'autre, mais aussi en soi-même ou dans le monde, discerner un peu entre ce qui est bien et ce qui est mal, ben on va garder que le mal, en fait. Donc ça, c'est quand même, c'est un peu ballot, quoi. Alors qu'on pourrait avoir une attitude bienveillante, ben c'est juste exactement l'inverse, toujours relever sur le dessus tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nul, tout ce qui est ridicule, tout ce qui est machin. Et ça, c'est vrai que c'est destructeur. C'est typiquement une attitude méchante. Alors, assis, c'est vrai que c'est une position... on voit Jésus qui s'assied dans le sermon sur la montagne. Là, c'est l'enseignant, en fait. Et donc celui qui va enseigner un jugement et tout un truc négatif, voilà, qui va toujours remonter le négatif. Donc j'ai bien aimé ton interprétation sur le Aleph, je trouve ça vraiment, vraiment super.
C'est amusant,
oui. C'est beau, oui, oui. De faire le lien entre l'idée qu'à dans la racine de ce bonheur et de cette dynamique, ce bonheur dynamique, il y a l'unité de Dieu, l'unité avec Dieu, et ça on le retrouve bien finalement dans l'arbre qui suit, hein. Voilà. Alors, mais ce qui est sympa aussi, c'est que vous voyez, là finalement, ça nous interroge sur nos enracinements, pas tellement sur nos actes. Hein, savoir, est-ce qu'on est enraciné dans la méchanceté, dans le péché, dans la moquerie, ou est-ce qu'on est enraciné, au contraire, dans la parole de Dieu? Et ça, c'est sympa parce qu'on n'est peut-être pas capable d'avoir des actes justes, mais au moins on peut choisir ses attachements, j'allais dire. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est un tout petit peu plus à notre portée. Bon, après, on fait ce qu'on peut, mais au moins, si on est enraciné dans quelque chose de bon, ben, peut-être ça peut susciter une croissance, comme nous le propose ce texte, alors que si on est enraciné dans la moquerie, la méchanceté, bon, ben, c'est quand même pas très prometteur pour notre développement. Donc, ça propose deux types d'enracinement, finalement. C'est pas tellement sur... et ça, je trouve que c'est quand même assez pratique, finalement, comme conseil. Savoir, choisissez votre enracinement. Voilà. En même temps, déjà là-dedans, il y a une bienveillance, parce qu'on n'est pas jugé que sur nos actes. On nous propose quelque chose d'assez fort. Oui.
Bon, juste sur l'enracinement, effectivement, il y a l'enracinement dans la Torah, hein. La Torah est comme effectivement cet humus qui reçoit l'arbre planté près des eaux vives. C'est impressionnant, hein. Celui qui se plaît à la loi du Seigneur récite sa loi jour et nuit. On imagine mal réciter le code civil ou tel Dalloz jour et nuit.
Ah, c'est vrai.
Oui, pour préparer un concours peut-être. Non, mais ça dit bien. Parce que finalement, on a beaucoup lu Saint Paul et on a raison, Saint Paul est un génie. Et Saint Paul est très dur avec la loi, on parle quelquefois de l'antinomisme de Saint Paul, c'est-à-dire que Saint Paul découvre que la loi, la Torah, on ne peut jamais l'appliquer complètement, que la conformité totale à la loi est impossible et que donc du coup la loi rend difficile son application, elle crée aussi de la convoitise parce qu'elle rend la transgression désirable et puis elle rend le sujet qui est soumis à la loi, le rend schizophrène parce qu'au fond il ne fait pas ce qu'il veut, je vois le bien que je ne fais pas, je fais le mal que je ne veux pas, etc. Et donc saint Paul effectivement est très dur hein, dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Romains avec la Torah et nous on est héritiers de ça et la tradition française, l'école française de spiritualité est très, très antinomiste, la tradition protestante aussi a été très paulinienne de ce point de vue-là, c'est-à-dire nous sommes sous le régime de l'esprit et donc on a un rapport à la Torah quelquefois qui est peut-être un peu simplificateur et du coup il y a de grands malentendus avec les juifs parce que pour eux la loi c'est magnifique, c'est une maison. C'est pas seulement ce qui protège, mais c'est ce qui humanise. La loi rend humain, parce que la culture rend humain. La loi, c'est la sortie de la nature, c'est le génie. Alors bien sûr, la loi, elle est quelquefois arbitraire, quelquefois on la comprend pas. Et Jésus invite à comprendre la loi comme Dieu même la veut. C'est ça, lorsqu'il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». C'est ça qu'il veut dire, c'est-à-dire essayer de comprendre le point de vue de Dieu sur la loi, d'entrer dans un processus d'interprétation, un processus herméneutique de la loi. Mais notre héritage paulinien fait qu'on est souvent très dur avec la loi et ça a créé beaucoup de malentendus avec le judaïsme. Il y a le psaume 118 qui fait l'éloge de la loi, qui magnifie la loi. Ouais, la loi est dite 118-119. Ouais. La loi est dite sur tous les synonymes possibles du mot et on voit bien que cette synonymie, cette polysémie est une espèce de comment dire d'enchantement verbal où on parle de la loi comme de ce qu'il y a de plus sacré, de plus beau, de plus noble, etc. Il y a une tendresse pour la loi chez les juifs. Et de fait, alors le Jésus de Matthieu ne vient pas abolir la loi, il veut l'accomplir, mais une certaine tradition chrétienne quand même a relégué la loi.
Oui, mais ce qui est peut-être dommage, c'est d'avoir mis loi que dans la traduction, parce que la Torah, c'est quelque chose de plus dynamique que ça. C'est-à-dire que c'est, nous, on dirait peut-être qui se plaît, qui prend plaisir à la parole du Seigneur, à la parole de l'Éternel. Parce que si vous voulez, c'est vrai que déjà traduire le tétragramme sacré par Seigneur, c'est Seigneur, on pense à quelque chose qui s'impose, qui appelle à l'obéissance, qui appelle à, voilà, qui est rigoureux, quoi, un Seigneur. La loi du Seigneur, oula, on se dit, mais là, ça rigole pas, en fait. Il y a intérêt à y aller, à faire ce qui est marqué, Alors que bon, le Seigneur, c'est ce qui est source de l'être. C'est pas le Seigneur qui va couper la tête au coupable et le roi qui est très haut. Des fois, il va gracier un coupable parce qu'il a une tête qui lui revient. C'est pas ça, si vous voulez. Le tétragramme, YHWH, Yahvé ou Yahou, si on veut, c'est la source de l'être. Et d'ailleurs, on le voit bien ici. Et puis la loi, c'est, si vous voulez, c'est pas des commandements pointilleux, machin. C'est la parole touffue, très diverse, avec des tas de promesses aussi. Et c'est pas que la loi, les commandements, il faut se laver les mains, machin, il faut faire le sabbat, sinon ça va pas du tout, et faut pas manger de cochon. C'est un peu schématique. C'est tout l'ensemble des promesses, et puis c'est même plus que ça, la parole de Yahvé, c'est une parole vivante qu'on ne peut pas inscrire avec de l'encre sur du papier. Ça, c'est des témoignages sur la parole de Dieu, notre bouquin, c'est des livres, c'est des témoignages d'humains sur leur expérience de la parole de Dieu. Donc il y a encore là un abîme entre les deux, il y a un monde entre les deux. Et donc, on voit bien que cette parole de l'Éternel, cette parole de Yahvé, parole de la source de l'être, elle vient pas s'imposer de l'extérieur pour être comme un chemin tout balisé, un chemin tracé, et puis absolument à suivre, sinon on tombe dans des lacs avec des piranhas et des crocodiles qui vont nous manger. Mais c'est quelque chose dans lequel C'est comme un humus, comme tu dis, c'est-à-dire quelque chose dont il faut se nourrir, qui va nourrir notre croissance et qui va nous permettre de donner, en fait, là, il y a marqué du fruit, mais c'est son fruit en sa saison, voyez ? C'est son fruit en sa saison. Donc, en fait, c'est pas tu vas me faire ci, tu vas me faire ça, tu vas me faire la prière tout bien comme il faut à tel moment. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on voit dans la parabole du bon samaritain, par exemple. Quel était le moment d'avoir un fruit de solidarité? Bah, c'est quand il y a un type qui était là sur le bord du chemin en train de crever, en fait. Et donc, c'était mon heure de porter du fruit parce que j'ai été celui qui passait à ce moment-là auprès de quelqu'un qui avait besoin de moi. Alors, on n'est pas à vocation à être Jésus-Christ, c'est-à-dire à apporter un salut universel pour l'humanité entière, mais il y a peut-être des moments qui sont notre heure, notre vocation, notre temps, notre façon de porter du fruit pour faire avancer la création, finalement. Mais vous voyez, on est plus sous une loi qui nous dit, qui appelle à l'obéissance. On est sous une loi qui va irriguer notre être en profondeur et qui va susciter une croissance et puis qui va permettre notre créativité personnelle, en fait. C'est très différent, en fait, et je crois. Il ne faut pas le lire... Oui, alors effectivement, ce que critique Paul, c'est l'idée qu'en appliquant tout bien les 613 commandements promulgués, tirés de la loi des mitzvot, tirés de la loi juive... À ce moment-là, on va devenir parfait, ou alors on va devenir voilà, comme Dieu l'entend. Ben non, c'est pas ça. Dieu, il veut qu'on soit nous-mêmes, en fait. Il veut pas qu'on fasse point, d'une manière scrupuleuse et à la lettre de faire ceci, faire machin, parce que ça va complètement étouffer notre créativité personnelle, notre personnalité, et le fait qu'on est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire source d'un bien inouï, d'un bien nouveau, d'un bien jamais vu avant. Et pour ça, eh ben, il faut que notre personnalité puisse s'épanouir et qu'on puisse avoir cette sorte de fierté, peut-être, de dire bah oui, moi je suis capable de changer le monde et d'apporter quelque chose qui n'avait jamais été vu avant, qui sera peut-être un tableau, peut-être un geste, peut-être une parole. Voilà. Donc. Je crois qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose, en fait. Et c'est là qu'il faut essayer de voir. Paul était dans une polémique avec, c'est le cas de le dire, avec les intégristes de l'époque, si vous voulez. Et donc, c'est par rapport à ça, il dit, bah, écoutez, là, il y a un problème dans votre système. Il faut s'ouvrir à autre chose. Oui. Mais là, c'est un peu ce qu'on nous propose, en fait. Hein.
Alors, il y a toute une ligne d'interprétation du christianisme qui abonde trop dans ce sens-là. Oui. En montrant la rupture avec la rupture avec une conception tatillonne de la loi est vue comme une rupture avec l'ancienne alliance. Ça a été présenté comme ça quelquefois, y compris dans le catéchisme. Or, il n'y a pas de rupture de l'ancienne alliance perdure aussi. Elle n'est pas caduque.
Il y avait des courants juifs peut-être comme ça, comme il y a des courants chrétiens qui vont être étroits et qui vont mettre leur confiance dans quelque chose de qui nie un peu la liberté, enfin la libération de l'homme, la croissance de l'homme.
Tout à fait, mais c'est quelquefois dur de remonter la pente.
C'est les travers, oui.
Quand les esprits ont été façonnés, parce que finalement, c'est une des thèses du Père du Jardin, que l'antisémitisme des années 30, ou en tout cas de la fin du 19e siècle, s'est nourri de l'antijudaïsme traditionnel, qui lui-même, il y a toute une traçabilité quand même qui souvent trouve malheureusement son origine dans une certaine lecture de l'épître aux Romains ou de l'épître aux Galates. Mais c'est intéressant de montrer que précisément, ce n'est pas le tout de l'Alliance.
Ce n'est pas le tout de l'Alliance, oui.
Et que la Nouvelle Alliance, le pacte neuf, comme dit Chouraki, puisque justement il aime bien créer des surprises comme ça, lexicales, le pacte neuf... c'est justement, à mon avis, dans le discours sur la montagne qui l'affleure peut-être le plus, c'est la possibilité d'un renouvellement permanent de notre existence au contact de la grâce, de l'esprit de Jésus le Christ. Mais effectivement, les promesses de Dieu sont sans retour, c'est-à-dire que l'élection de son peuple, les promesses à Abraham, le don de la loi à Moïse, connaît mystérieusement une pérennité jusqu'à la fin, et que le Concile Vatican II, dans les années 60, a montré qu'il y avait quand même dans la théologie chrétienne catholique une inflexion majeure dans le rapport à Israël. Oui, l'Église catholique n'attend plus, il faut le dire, n'attend plus la conversion des Juifs promise avant la parousie, etc. Puisque, précisément, les promesses de Dieu sont sans retour. Elles sont irrévocables, et donc on ne peut pas reprocher à un courant spirituel qui trouve son origine dans l'Ancienne Alliance, on ne peut pas lui reprocher de maintenir cette fidélité à un culte, à une parole, à une loi, voilà.
Cela dit, ça n'empêche pas d'être, de reconnaître en Jésus le Messie. Après, je veux dire, lui-même n'était pas non plus... voilà.
Normalement, ouais. À partir du moment où l'Église chrétienne les Églises chrétiennes reconnaissent cette permanence d'Israël, ça rend aussi possible pour Israël de redécouvrir la judaïté, judaïté de Jésus. Et du coup, de se laisser à nouveau...
Ouais.
Interpellé, comme on dit, par sa parole. Et
oui,
du coup, le dialogue est moins bloqué.
Oui, oui.
Et il y a des rabbins aujourd'hui, beaucoup d'ailleurs, qui s'intéressent à Jésus, puisque c'est l'un des leurs.
Par exemple, l'abbé Cassis, il y a eu un commentaire des évangiles. C'est vrai, tout à fait. Oui, parce que Jésus n'était pas chrétien, Marie non plus, et les apôtres non plus, en fait. Ils étaient tous juifs, pratiquants, bon, un peu libéraux sur les bords, en sens où ils n'étaient pas... Étroit sur les petits commandements, mais bon, quand même.
Puis galiléen en plus, donc un peu.
C'était assez.
Un peu rastaquer. un peu
Galilée
métis,
des Nations,
un
dit,
peu...
voilà.
Oui, oui, la Galilée des Nations était regardée de très haut, comme vraiment non seulement des ploucs, mais des gens impurs. Voilà. On va lire l'évangile de Matthieu, juste pour resituer. Donc, on est dans le sermon sur la montagne. Il y a un équivalent chez Luc. Je crois que chez Luc, c'est au chapitre 6 ou 7. Il y a aussi des macarismes. Ils sont aussi au nombre de 8, mais c'est 2 fois 4. C'est-à-dire, il y a 4...
Il y a des lamentations aussi, oui.
4 bénédictions, mais enfin 4 félicitations et 4
lamentations.
Lamentations, puisque effectivement, si on ne dit pas bénédiction, on ne dit pas malédiction. Donc 4 lamentations et 4 félicitations, macarisme.
Oui, puis même c'est vrai que c'est malédiction. Je veux dire, c'est pas des malédictions parce que c'est pas le mot pour malédiction. C'est why, c'est une.
Why, why.
C'est comme nous quand on dit aïe aïe aïe, ça veut dire en fait c'est triste, c'est. C'est une lamentation, une tristesse, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui nous lit ça, alors, ce début de... Oui, monsieur Hureau.
À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et, prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font preuve de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. Moi, j'en compte 9.
Oui, si...
Non, parce que la dernière, voilà.
La dernière est un doublon, en fait.
Un développement, un doublon de la septième, en fait. On parle de la même chose, en fait.
Oui.
C'est le, Voilà, c'est un petit peu le...
Ceux qui sont persécutés au nom du Christ.
Oui. Alors moi, le début, je trouve ça déjà assez beau, si vous voulez, à la vue des foules, donc dans cette variété de gens qui venaient un peu de partout. C'est ce qui était à la fin de l'évangile, du chapitre d'avant. On les voit arriver de partout. Donc il y a des foules qui convergent un petit peu. Et puis Jésus monte sur la montagne et s'assied pour enseigner. Je trouve que c'est intéressant parce que d'abord Jésus regarde les gens. Et puis ensuite, l'idée de monter sur la montagne, c'est de prendre de la hauteur dans la prière, en fait. C'est quand même, c'était des lieux de culte et de prière, les montagnes, parce que symboliquement, on est plus proche du ciel. Bon, on sait bien que le ciel, il va aussi au ras du sol, aussi bien dans le sommet des montagnes que dans le fond des vallées, en fait. Donc c'est un peu pour rigoler, mais symboliquement, qu'est-ce qu'on a là à en faire, vous voyez, qui monte sur la montagne. D'ailleurs, tu disais l'évangile selon Luc, c'est dans la plaine. Alors on dit, c'était dans les plateaux... Mais il faut comprendre que dans un mot comme ça, dire qu'importe, c'est savoir où est-ce que Jésus a enseigné. Il a enseigné en différents endroits. Quand est-ce qu'il a prononcé les béatitudes? Alors si on visite Israël, ce que je n'ai malheureusement pas fait, on va vous montrer, ça c'est la montagne des béatitudes, c'était ici. Bon, personne n'en sait rien, mais il y a l'office du tourisme qui a collé sa baraque à frites. Et à cet endroit-là, son marchand de petits Jésus avec de la neige, qui fait de la neige quand on le retourne, et qui a dit c'est ici, vous voyez. Bon, alors on n'en sait rien. Le mot montagne ici, à mon avis, ça fait plus référence à une attitude spirituelle à avoir, qui nous est proposée de regarder ceux qui nous entourent, de les voir, peut-être de prendre la hauteur dans la prière, et puis peut-être prendre un temps de pause avant de savoir ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, et puis de prendre la parole, d'enseigner, éventuellement d'apporter ce qu'on a à enseigner en fonction de notre vocation, la vocation du Christ. Pour reprendre l'évangile selon Jean, selon saint Jean, c'est d'être la parole faite chair. Donc sa vocation particulière, c'est d'être porteur d'une parole de Dieu, celle qui irrigue les arbres que nous sommes, peut-être. Et donc c'est ce qu'il va faire. Peut-être qu'une autre fois, ça sera un geste. Peut-être qu'une autre fois, ça sera de ne rien dire ou de ne rien faire. Ça dépend un peu du moment, du lieu, mais il y a un petit itinéraire qui nous est proposé. Et c'est vrai que cette attitude de Jésus... Là où on voit qu'il est salut, c'est que les disciples sont mis en route, en fait, par son regard et par la prière. Et étant mis en route comme ça, et bien, ils sont eux aussi aspirés, ils sont élevés, finalement, par cette démarche du Christ. Et là, en quelques mots, déjà, il y a peut-être quelque chose qui nous est proposé d'une manière narrative, de l'effet que le Christ a pour nous. Avant même d'être un enseignement, c'est quelque chose qui peut nous susciter une démarche montante, vous voyez.
Alors, on va peut-être les prendre une par une. Il y a une caractéristique des béatitudes chez Matthieu, que vous connaissez peut-être. On pense que la communauté mathéenne, c'est-à-dire la communauté à laquelle s'adresse l'évangéliste Matthieu dans les années 80 du 1er siècle, est une communauté relativement stable, socialement insérée dans le monde palestinien de l'époque, et donc qui ne connaît pas forcément ni la faim ni la grande pauvreté. Et donc, il y aurait, par rapport à la source qui est en amont de Matthieu et de Luc, qu'on appelle quelquefois la source Q, à cause de l'allemand, les Allemands sont de grands philologues, grands exégètes, la source Q, c'est à cause du mot Quelle en allemand, qui veut dire la source, tout simplement. Il y aurait donc une source commune, un dénominateur commun, ce qui explique qu'un des parentés, même si la langue de Luc est beaucoup plus raffinée et plus grecque, plus littéraire, hein, c'est des aspects quelquefois qu'on n'a pas bien en tête, mais quand on lit Marc, par exemple, c'est un roman de gare. C'est de la littérature assez pauvre. Ça se lit très vite. Quand vous lisez Luc, vous lisez du Jean d'Ormesson. Enfin, je sais pas. Vous lisez quelque chose d'assez... on voit bien qu'il a pesé les mots, qu'il a fait un travail rhétorique, etc. Et souvent à partir de sources identiques. Et donc, Luc... est probablement plus proche de la source primitive. D'où le caractère un peu abrupt chez Luc. Si vous allez voir le texte équivalent chez Luc, c'est « Heureux les pauvres, maintenant ». heureux ceux qui ont faim et soif. Et Matthieu a spiritualisé. Ça ne veut pas dire qu'il rend les choses plus édulcorées plus douce à entendre pour les auditeurs de l'époque, mais voilà, il a dit heureux les pauvres, to pneumati, hein, ptokoi, to pneumati, c'est-à-dire les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui ont un esprit de pauvre. Je ne sais pas d'ailleurs, peut-être on pourrait faire un petit sondage. Comment vous comprenez cette première béatitude? On disait quelquefois les pauvres d'esprit autrefois, mais évidemment, ce n'était pas très heureux. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de ça, même si ça peut être aussi un peu ça. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la grâce, les grâces de l'esprit au sens intellectuel du mot. Mais voilà, comment vous entendez cette première béatitude? Oui.
Le sens, c'est pas évident.
Oui. Quelquefois, on glose, on fait une périphrase, on dit « heureux ceux qui ont un cœur de pauvre
oui. ».
C'est-à-dire...
C'est ce qu'ils ont mis un peu là, en fait, oui.
Ils ne se sentent pas propriétaires, en fait. Normalement, ils ne se sentent pas propriétaires de leur qualité.
Oui, qui sont dans l'idée qu'ils sont intendants des biens qu'ils ont reçus. Au nom de l'universelle destination des biens, comme dit la théologie. Donc chacun, même le riche, est finalement intendant de biens, d'un patrimoine qui n'est pas vraiment lié à son ego, qui n'est pas uniquement le prolongement de son ego. C'est probablement dans ce sens-là, pour que les riches puissent se sentir aussi concernés par les béatitudes. Chouraki dit « Heureux les humiliés du souffle ». Alors, honnêtement, bon, on voit bien qu'il a voulu déplacer un peu nos habitudes et puis jouer un peu avec nos conformismes. Voilà, mais « Heureux les humiliés du souffle » tendrait, à mon avis, à être un peu interprété justement dans le sens les pauvres d'esprit. Alors, je ne sais pas comment toi tu l'entends.
Moi, je l'entends, si vous voulez, c'est que je crois que c'est vraiment dommage, là, dans la traduction, d'avoir enlevé le mot esprit, parce que, quand même, c'est un des énormes, immenses mots, quand même, de l'Évangile. Enlever esprit, remplacé par cœur, il faut vraiment être
c'est
gonflé.
La tobe,
oui, c'est la tobe, c'est la traduction œcuménique. Il faut vraiment y aller fort. Je crois que je le lis, je le lis comme c'est marqué, heureux donc les pauvres, c'est les mendiants, heureux ceux qui mendient l'esprit. Voilà, littéralement, c'est ça, et je trouve que c'est tout à fait explicatif, c'est-à-dire que voilà, il faut être dans la situation où on demande à qui pourrait-on demander l'esprit si ce n'est à Dieu, on demande son esprit à Dieu comme un mendiant, un pauvre, va frapper à la porte du riche pour demander du pain, parce que s'il sait qu'il n'a pas du pain aujourd'hui, lui et sa famille vont crever demain, en fait. Aujourd'hui même, peut-être. Et donc, je crois que c'est cette attitude-là. Et là, on est dans la première béatitude, on a le résumé de tout l'Évangile. Je suis désolé, mais le résumé de tout l'Évangile, c'est un peu plus que simplement ne pas trop s'intéresser au fric. En même temps, on est d'accord. Je veux dire, il y a un passage où Jésus dit on ne peut pas adorer à la fois Dieu et Mammon, et Dieu, le Dieu de l'argent. On est d'accord. C'est une question là d'adoration. Mais avoir un esprit de pauvreté, je ne suis pas sûr même que ce soit dans l'esprit de l'Évangile.
Oui, mais
j'ai rencontré récemment un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Vernier, qui est un monsieur un peu curieux, c'est-à-dire qu'il a fait fortune, il est multimillionnaire dans l'informatique, je n'ai pas très bien compris dans quoi. Par ailleurs, il vient d'être ordonné de prêtre, en fait, et lui, il dit, faire de l'argent, bon, d'une manière honnête, correcte et tout, mais ça me dégoûte pas du tout. Et cet argent, il a mis de son vivant, tout cet argent dans une fondation qui vient aider des pauvres, etc. Ben, je veux dire, moi, je suis désolé. Vouloir la pauvreté pour la pauvreté matérielle, c'est un peu cracher dans la soupe. C'est-à-dire que l'argent, c'est un moyen d'agir. Ben, il faut plutôt que ce moyen d'agir, ben, il soit mis au service du bien, au service de la vie. Qu'il ne faille pas que ce soit notre Dieu, comme le dit Jésus, certainement. Mais enfin, avoir un esprit de pauvreté, C'est-à-dire ne pas chercher vouloir d'avoir de l'argent, non, il ne faut pas que ce soit notre Dieu, d'accord. Ensuite, vouloir en avoir pour le mettre au service du bien, ben pourquoi pas avoir.
Oui, mais l'idée, c'est un peu ce que dit Anne, à savoir que c'est une invitation pour le riche, non pas à le culpabiliser, c'est pas pour le culpabiliser d'être riche, c'est pour, c'est pas du franciscanisme primaire. Ce serait l'idée de l'inviter à ne pas être attaché à ses biens. Alors évidemment, on voit très bien à quel point...
Oui. Faut pas l'adorer,
après,
oui, d'accord.
Ça peut être aussi une source d'hypocrisie, parce que comment savoir quel est le critère d'authenticité de la relation à ses biens. Moi, je veux bien qu'un riche me dise qu'il n'est pas attaché à ses biens, mais je...
Souvent, le pauvre est plus préoccupé par les biens de ce monde que le riche.
Alors,
il y a une question là-bas, une remarque.
Mais c'est justement, comme disait Marx, c'est pneuma, c'est le souffle, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Ah, de l'inquiétude. Alors là, on a trois pistes. Donc, soit il y a les mendiants de l'esprit, ce serait un peu cette idée d'ailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont en manque, qui en manque de sérénité, pour parler un peu comme... les coachs postmodernes, donc voilà ceux qui seraient là pour notre confort, et voilà. Et puis malheureusement, il y a tous ces gens qui sont inquiets, tiraillés, qui sont mendiants de cette paix que promettaient les sagesses de l'Antiquité. Hein. Au fond, la religion juive était en concurrence avec toutes ces sagesses épicuriennes, stoïciennes. On a souvent eu l'occasion d'en parler. Et les élites, souvent, n'étaient plus très religieuses. Ce qui les intéressait, c'était la paix, la tranquillitas animi, chez Sénèque, à la même époque. Donc, effectivement, ce serait peut-être heureux les dépressifs, heureux les... mais pourquoi pas ?
Mais ça, alors,
les mendiants de la paix...
On l'a un peu après, ça. Mais maintenant, moi, je crois que bon, ceux qui demandent l'esprit, ça, je verrais un peu plus loin. Donc, Jésus dit, voilà, il ne faut pas adorer le Dieu de l'argent, on est d'accord, il faut plutôt adorer Dieu. Et il conclut en disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Donc, effectivement, voilà. Alors, sinon, il y a un autre endroit où il y a marqué, frappez et on vous donnera... puis bon, ayez confiance, finalement je ne sais plus très bien comment c'est tourné, mais il y a marqué vous êtes bien capable de donner un pain à votre enfant et pas une pierre en fait, ou de donner un, je ne sais plus exactement quelle est la formule, combien plus le Père que vous avez dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et effectivement, la racine même, je crois, de la prière, c'est de demander à Dieu le Saint-Esprit, c'est-à-dire demander à Dieu ce souffle, là encore le Saint-Esprit, c'est peut-être pas clair ce que c'est que ce souffle, c'est un souffle vital, c'est ce souffle, puisque on parlait de la Genèse qui préside à un début d'organisation, c'est Dieu en tant qu'il se rend présent pour apporter un supplément de créativité finalement. Alors quand on demande ça, on s'ouvre à ça, on dit bah oui, en fait, par moi-même je suis incapable d'avoir un vrai souffle de vital, d'élan vital, et qu'on le demande à Dieu, mais Dieu ne demande que ça, finalement, de nous créer à son image. C'est son projet, en fait. Le projet, le début de la Genèse, ce n'est pas dans le passé, c'est une promesse pour le futur.
François.
Et donc, il faut s'ouvrir à ça.
Oui, je comprends tout à fait. Moi, j'ai une question un peu pédante, c'est que j'ai tout le matière.
Alors moi c'est comme ça que je le comprends.
Oui, parce que quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, l'interprétation courante, c'est celle que vous disiez, les pauvres en esprit, et on concluait à la limite les demeurés mentaux, les idiots.
Les pauvres d'esprit, oui, parce que
oui,
pauvres en esprit, c'est déjà ceux qui ont un esprit de pauvre.
Ah, oui,
oui, mais...
à la limite, bon, alors, sans aller jusqu'au crétinisme quand même, mais plus on était ignorant, plus on était bête, plus on était naïf. Mais d'une certaine façon, c'est pas idiot, je veux dire.
Bien sûr.
Mais à un moment, c'est la plus idée, c'est même.
toute façon, il y a Ptokoï, donc c'est quand même les gens à qui il manque quelque chose. Voilà, et c'est nous, hein, c'est ça, puisque c'est.
Et alors, il manque de l'esprit, Ptokoï, ça veut dire par l'esprit. C'est l'esprit qui les fait manquants ou c'est.
Oui, et c'est pour ça que Shuraki dit les humiliés du souffle, c'est-à-dire ceux. C'est-à-dire ceux qui. Oui, les pauvres de souffle.
Les mendiants du souffle.
Voilà.
Oui, alors là, je comprends.
Oui. Et qui en contracte une humiliation, c'est-à-dire que voilà, qui
vraiment, quoi, vraiment.
Voilà,
qui
sont du côté de l'humus, puisque c'est ça l'humilité.
Oui.
Et mais en tout cas, ils sont de toute façon, ils sont ptokoï, ils sont pauvres, ils sont. Tout à fait. Il n'y a pas de suffisance. On est du côté de la carence, du déficit, du manque, du creux. Ptokoï, c'est ça. Alors, topneumatis, ça peut vouloir dire effectivement qu'ils sont soit pauvres par l'esprit. Alors, à la limite, ça pourrait vouloir dire aussi pauvres par l'esprit.
Que l'esprit leur fait prendre conscience de cette,
de
cette pauvreté et du coup se tourne vers Dieu, en tout cas.
Par révélation, ils sont pauvres.
C'est ceux à qui le Saint-Esprit a donné la grâce.
Oui. Par révélation de l'esprit, oui. Là, il faudrait voir dans la. Alors là, ce serait de la syntaxe grecque pour voir les usages du datif grec. C'est un complément de moyen ou c'est un complément d'attribution? C'est ça qui est complètement. Oui.
Et donc, je crois que c'est bon. Si on fait place, en tout cas, voilà, à cette action de Dieu par cette pauvreté, à mon avis, de toute façon, que ce soit la pauvreté du cœur ou que ce soit cette idée de demander l'esprit. Si on fait place à l'action de Dieu, de toute façon, c'est bien ça qui finit par être en cause, le résultat, de toute façon. À ce moment-là, on est dans le royaume, c'est-à-dire que le mot royaume, c'est aussi le règne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on laisse régner Dieu dans notre existence. Et c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'à la limite, de toute façon, là, on a le résumé de tout l'évangile, comme tu disais, parce qu'avoir le royaume de Dieu ici et maintenant, c'est le but, c'est le salut, dans un sens. Mais ce n'est pas un lieu, c'est... On laisse Dieu agir à ce moment-là dans notre être, et Dieu règne sur nous, il agit, il gouverne, il crée en nous, et c'est ça finalement qui est le bonheur, je pense.
Parce que trop souvent, une lecture morale des béatitudes a cru que c'était un catalogue de conditions qu'il fallait remplir, qu'il fallait pouvoir cocher, afin de pouvoir avoir un jour... le royaume, etc. Voilà. Et je dois dire que c'est une lecture qui n'est pas totalement fausse, puisque Jésus dit à la fin, le royaume des cieux, votre récompense sera grande, parce qu'on est grande ou sera grande, on sait très bien que dans les langues sémitiques, c'est un peu la même chose, hein, c'est indéfini, c'est inaccompli, donc le présent, le futur sont souvent le même verbe. Donc si on veut... Surtout chez Matthieu, qui est plein d'araméisme ou d'hébraïsme, de tournure araméenne. Si on veut hébraïser, sémitiser Matthieu, c'est pas très difficile. Et donc, on peut imaginer que Jésus dit « le royaume est ou sera ». Donc, mais il vaut mieux traduire par « est » de toute façon. Mais enfin, il y a quand même l'idée que un jour, ils verront Dieu. Il y a quand même un futur. Mais c'est pas un futur... conditionné par un présent, c'est pas une liste à cocher, c'est pas l'idée plus vous en baverez et plus vous serez récompensé, parce que ça c'est une lecture effectivement stoïcienne qu'on peut faire, une lecture extrêmement coercitive, contraignante. Plus vous allez à contre-cœur dans des tâches éthiques que votre loi morale vous dicte, et plus vous serez récompensé. Alors, c'est pas ça du tout que dit Jésus, puisqu'il dit précisément « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Ça veut dire qu'en fait, ils sont déjà. Alors, ils ne le savent pas, et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là que, évidemment, c'est là que la bigoterie a toujours tort, en croyant que... effectivement, il suffit de passer en revue des listes de péchés et d'être en conformité avec un certain nombre de règles morales pour pouvoir prétendre, etc. C'est là que ça ne marche pas. C'est que Jésus dit, ça ne marche pas. cette bigoterie morale ne peut pas marcher. Les pharisiens seront peut-être sauvés, mais ce n'est pas par leur conformité aux 613 commandements, c'est parce qu'ils auront été pauvres. Voilà. Ce n'est pas dans le plein qu'ils vont être sauvés, ce n'est pas le plein qui va les sauver, ce n'est pas la plénitude de la conformité au mitzvot qui va les sauver, c'est au contraire le manque, le creux. Et ce que fait Jésus en permanence, en montrant justement la femme adultère ou la pécheresse ou ceux qui disent « voilà, moi je n'ai rien, je vais toucher le manteau de Jésus, peut-être je serai sauvé ». Ce sont ces pauvres-là que Jésus montre comme étant ceux qui ont précisément la foi. Ça, c'est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire... bien que Jésus dise au fond tous ces gens-là ils sont dans le bonheur sans le savoir, et c'est un bonheur évidemment très exigeant hein, parce que voilà, enfin, heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, etc. Mais il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, c'est-à-dire que l'être humain ne peut pas produire ça par lui-même, par sa raison, parce que ça va à contresens de notre raison, mais il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une parole de révélation. C'est-à-dire que le bonheur est à chercher de ce côté-là. C'est presque indicible. C'est pour ça que j'en ai des sueurs froides à le dire, parce que on ne peut pas dire des choses pareilles. Il fallait tout l'exousia. L'exousia, c'est l'autorité. L'autorité de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a vu là, en Jésus, une sorte de nouveau Moïse, qui va plus loin que Moïse même. Et donc... quelqu'un qui porte sur lui la réalité plénière de Dieu, parce que seul Dieu peut dire des choses comme ça, que le bonheur est dans le malheur d'une certaine manière. Et c'est même pas un paradoxe rhétorique ou logique, c'est autre chose, c'est existentiel, c'est... voilà. Et en même temps, il montre bien que c'est pas statique, c'est pour ça que Chouraki a raison de dire en avant, c'est-à-dire... que quand même, le bonheur est quand même au bout. C'est pas seulement non plus tout de suite. C'est ça qui est intéressant. Il faut tenir les deux en même temps. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, effectivement, ces gens-là qui sont affligés sont déjà dans le bonheur. Ils goûtent quelque chose d'une forme de bonheur qui remet en cause nos conceptions humanistes du bonheur. Mais évidemment, c'est pas la totalité du bonheur. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est en avant. Mais c'est un chemin qui va vers le bonheur promis. Et que c'est ce chemin qu'il faut à un moment prendre. Et c'est le chemin que lui-même montre d'une certaine manière. Donc le bonheur est de ce côté-là. C'est la fin du Deutéronome. Hein. Choisis la vie et tu vivras. Il y a vraiment et le psaume 1 qui dit, voilà, le Seigneur connaît le chemin des justes. Ben, c'est ça, c'est le chemin des justes, c'est le chemin de la vie et c'est le chemin du bonheur. Mais c'est un chemin. Et il faut aller en avant, il faut avoir cette audace de comprendre à un moment que ce chemin, ce n'est pas les nantis, ce n'est pas ceux qui ont tout, ce n'est pas ceux qui sont, comme dit le pape actuel, ceux qui ont l'extérieur correct, comme il dit. Hein, il dit souvent cette expression. Ce n'est pas effectivement les pharisiens de l'époque qui sont dans le bonheur. Ou alors s'ils sont, c'est pour des raisons qui leur échappent. Voilà. Et que d'une certaine le bonheur n'est jamais totalement... là où l'homme le croit ou le souhaite.
Alors il n'est jamais totalement, mais en même temps, c'est pas le chemin du bonheur, c'est pas le chemin qui mène vers le. Enfin, je veux dire, le bonheur n'est pas au bout du chemin. C'est le bonheur qui est cheminement.
Oui.
C'est le bonheur, c'est de cheminer. Et c'est bien pour ça que le Christ dit, voilà, c'est la fin de. C'est dans Jean 14, hein, je suis le chemin, la vérité ou la fidélité et la vie. C'est-à-dire que voilà, le bonheur est de cheminer, en fait. Il est dans le chemin. Et à mon avis, même dans la vie future, si on croit qu'on sera arrivé au but et qu'on est arrivé et que donc on pourra enfin se reposer dans une couette avec une télévision en écran courbe et grand large, ben, faut pas croire, à mon avis, parce que la vie est cheminement. Et donc, s'il y a une vie au-delà de la mort, au-delà de l'visible, ça, c'est une question, de toute façon, qui sera pour le moment où on y sera. Pour l'instant, la vie, donc la vie dans le royaume, la vie du royaume, la vie éternelle, elle est maintenant. Eh bien, dans la vie future, à mon avis, ce sera encore des défis, encore du cheminement. Parce que la vie est cheminement, le bonheur est cheminement. Mais de toute façon, on le sait bien, le bonheur, si on se cramponne sur un bonheur, tout de suite, il passe. Il passe parce qu'on y a plus goût et que... voilà. Mais ça, c'est très pratico-pratique, si vous voulez. Quelque chose, par exemple, n'importe quel instrument de musique, n'importe quel sport, n'importe quel jeu vidéo, si on stagne à un niveau, ben, en fait, on y joue encore un jour, deux jours à ce niveau. Mais si on reste toujours au même niveau, ben, on va se lasser. Ce qui est intéressant, c'est d'avancer, de cheminer. Ben, c'est ça aussi. Et on remarque d'ailleurs tous ces, pour reprendre ce que tu disais, Jérôme, c'est que toutes ces descriptions, finalement, c'est plus des modes d'être, c'est plus un état, si vous voulez. Quelle que soit la pauvreté dont il est question, c'est un état, c'est pas une action d'être pauvre. Avoir faim et soif de justice, c'est pas faire quelque chose. C'est un état, c'est un mode d'être, en fait. C'est un état, c'est pas un comportement, c'est pas une action. Ensuite, c'est la même chose que dans l'arbre. C'est une question d'enracinement, c'est une question de visée, c'est une question de façon d'être. Et c'est là que c'est pas un catalogue de choses à faire ou à pas faire, pour, voilà, comme tu dis, ou en coche. Parce que c'est plutôt un état de fait. Ben, en fait, heureux celui qui est heureux, c'est ça. Et vivant celui qui est vivant.
Oui.
C'est pas que quand on est vivant, on va avoir la prime et qu'on aura le droit d'être dans la vie, non. Et vivant, celui qui est vivant. Et celui qui est mort, ben, il est mort. Celui qui est en marche, celui qui s'est levé et qui s'est mis en marche. Ben, c'est aussi clair que ça. C'est pas qu'on nous en veuille si on n'est pas en marche. C'est pas qu'on nous pourrisse de malheur si on n'est pas heureux. Non, c'est un état de fait. Et donc, Jésus nous dit, mais en fait, la vraie vie, c'est ça. Voilà. Et celui qui est dans la vraie vie, qui est dans cette dynamique, ben, en fait... C'est ça le truc. Il est vivant, il est heureux. C'est pas un examinateur qui est là et qui dit, lui, il a des bons points, donc je vais pouvoir donner la récompense. On n'est pas dans ce marchandage-là, finalement. Il nous apprend la vie, voilà. Alors, ceux qui pleurent... Alors, effectivement, c'est un peu paradoxal, mais en même temps, celui qui pleure, ben, c'est celui qui a de l'appétit pour être meilleur. C'est celui qui a eu la compassion pour ses frères autour qui souffrent. Mais alors, bien sûr, il y a peut-être de la sagesse dans Diogène de se dire, ben, je vais être dans mon tonneau et je bouge rien, je touche rien, en fait. Je ne veux pas critiquer Diogène parce que j'aime beaucoup, par ailleurs, si vous voulez. Mais, on pourrait trouver d'autres exemples. Par exemple, si, des fois, préparation de mariage. Un couple, on leur demande, bon, alors vous intéressez à quoi? Je dis, ben, non, ça, je ne vois pas. Non, qu'est-ce que vous faites le soir? Ben, on est un peu fatigué, on regarde la télé. Bon, alors, et le week-end? Ben, le week-end, vous savez, il faut faire les courses, le ménage, et puis sinon, ben, on regarde la télé. Ben, et alors, bon, on essaye de se poser des questions. On dit, mais pourquoi se poser des questions? Je veux dire, la vie est c'est fatigant. Je veux dire, ça amène à quoi? Je dis, ben oui, ben, c'est ça, en fait. Je veux dire, on se pose des questions, on avance, on cherche, on a de l'appétit, on se passionne pour un truc. Je ne sais pas qui se passionne pour construire des tours Eiffel en allumettes, mais qu'il y ait quelque chose, quoi. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Une passion. C'est beau, quelqu'un qui a une passion, même si c'est fait. Mais qu'il y ait de l'appétit, voilà. Ben, celui qui pleure, ben, il va pleurer parce qu'il lui manque une boîte d'allumettes, que son rêve, c'était de faire une tour Eiffel plus grande. Enfin, je ne sais pas, mais qu'il y ait...
Ou d'avoir une passion.
Qui pleure d'avoir une passion,
aussi,
peut-être.
C'est voilà. Peut-être aussi un pauvre.
Oui.
Celui qui n'a pas la richesse d'avoir cette passion. Alors j'aime bien aussi la deuxième, heureux les doux. C'est celle qu'on traduisait pendant très longtemps par heureux les débonnaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette traduction qui a toujours pour moi été une source de perplexité. Je me demande si Louis II ne traduisait pas par heureux les débonnaires.
Ben, c'est possible. Hein.
Et débonnaires, pour moi, ça avait des connotations doux, un peu joviales, un peu. Et voilà. Donc débonnaires. Alors que ça veut dire d'ailleurs de bonne air. Hein. C'est l'étymologie. Et donc c'est heureux les doux. En grec, c'est prueis. C'est un mot qui est pas très courant. C'est effectivement ceux qui sont pas violents. Heureux ceux qui sont doux. Alors, les débonnaires, c'est peut-être dans le Maître de Sacy, mais il y a plusieurs traductions comme ça. C'est pas mal, parce que souvent, la douceur, surtout dans les sociétés de l'Antiquité, qui étaient violentes quand même, hein, pas seulement physiquement, mais aussi symboliquement et socialement.
Jésus n'était pas un doux quand même.
Douceur, hein. Jésus n'est pas toujours un doux d'ailleurs, justement. C'est peut-être pas
dire, hein.
Parce qu'on dit souvent qu'il parle de lui, qu'il fait son portrait robot, mais La douceur de Jésus,
on ne peut pas dire. Hein.
Voilà, ce n'est pas seulement c'est pas la seule image qui reste de lui quand il chasse les marchands du temple.
Oui, oui, puis même il est, je sais pas, il remet en cause, il a des paroles provocantes qui sont perturbantes, quand même, je sais pas. Donc je sais pas.
Mais la douceur, c'est pas le sucre d'orge. C'est comment
c'est peut-être
comprendre...
les humbles, c'est peut-être oui. ceux qui sont qui
c'est traduit quelquefois par les humbles.
Ceux qui se haussent pas, qui se la pètent pas, comme on dit en français courant, je sais pas.
Heureux les miséricordieux, Chouraki traduit par heureux les matriciels. Ils seront matriciés.
Oui, parce qu'en hébreu, cette miséricorde, c'est l'amour, la grâce qui est haram, qui est l'utérus en fait. Et donc c'est un amour. Alors c'est soit un amour effectivement qui est matriciel, comme le dit Chouraki, c'est-à-dire qui est comme un utérus qui donne la vie, c'est-à-dire c'est un amour qui, on pourrait dire, c'est un peu l'agapé finalement, hein. C'est un amour qui veut la vie de l'autre et qui est source de vie, parce qu'on s'intéresse à l'autre, aux autres, et du coup on va vouloir leur apporter un supplément d'être et de vie, ou bien c'est simplement celui qu'on peut avoir, que la mère a pour son enfant. C'est-à-dire un amour viscéral, un amour justement qui ne va pas calculer si on a renversé notre purée ou je ne sais pas quoi, mais qui est un amour comme pour un bébé, pour ce qui pourrait devenir, ou simplement parce que on y est attaché viscéralement. Voilà. Donc Chouraki a raison sur ce coup-là, si vous voulez. Mais alors, ce qui me fait peur, moi, dans celui-là, c'est heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Ça peut faire un peu donnant-donnant, quoi. Mm-hmm. Et ça, dans le Notre Père, on a la même angoisse. Hein. Pardonne-nous comme nous avons pardonné. On pourrait se dire, en fait, il ne va pas nous pardonner beaucoup sur ce coup-là, parce que... parce que nous, on fait ce qu'on peut. Et,
mais si on l'entend au présent, si on entend un inaccompli hébreu ou araméen, heureux les miséricordieux, il leur est fait miséricorde, c'est-à-dire dans dans la grâce qu'il leur est faite d'être miséricordieux, d'avoir de l'empathie pour les autres, ça change tout.
Oui, oui, oui.
Ça veut dire qu'ils ont leur récompense dans le fait même de... c'est comme le plaisir qu'on peut avoir donner. Ou,
exactement.
Noël nous fait beaucoup réfléchir à ça, d'ailleurs.
Oui, oui.
Et heureux celui qui a pitié, parce que... Enfin, le mot pitié est ambigu, mais enfin... Heureux celui qui est miséricordieux parce que il lui est fait miséricorde. C'est comme la grâce de pardonner. On sait très bien que pardonner, ça peut sembler onéreux, mais c'est aussi une libération, parce que c'est une grâce qui nous est faite.
Oui, t'as raison.
C'est souvent, justement, alors pour le coup, la tradition peut-être romaine a trop souvent fait de la morale quelque chose de binaire, hein, juridiquement, c'est-à-dire voilà une condition à remplir pour obtenir un effet. Et la grande tradition luthérienne ou calvinienne, pour ne pas dire calviniste, mais calviniste ou luthéraniste, enfin, je ne sais pas comment on dit, enfin, bon, c'est quand même de réhabiliter ça, l'idée qu'il y a, que l'initiative, quand même, elle vient toujours de Dieu. Donc, quand bien même l'homme est le canal des vertus théologales, mais il y a quand même toujours la source en Dieu. Donc, heureux le cœur pur, il verra Dieu, c'est-à-dire il voit déjà Dieu, au fond. Parce que dans son innocence, dans la pureté de son cœur, il a accès à ce Dieu qu'Israël cherche dans son histoire. Et je crois que quand on met au présent... Alors c'est sûr qu'il ne faut pas tout mettre au présent, parce que c'est trop dur à entendre de dire « heureux ceux qui ont faim ». Bon, Matthieu spiritualise, il dit « faim de justice », mais enfin, Luc dit « faim ». « Heureux ceux qui ont faim, ils sont rassasiés ». On ne peut pas le dire, vous voyez ce que je veux dire ? Or, Jésus, c'est ça qu'il dit. Hein. Voilà, il faut être Jésus. Parce qu'il y a des moments où il y a des paroles qui dépendent de la personne qui le dit. Qui a l'autorité suffisante pour le dire et que si c'est répété par quelqu'un d'autre, si c'est moi qui le dis, ce ne sera pas audible. Et je crois que c'est important de comprendre ça aussi, qu'une parole dépend du sujet parlant, de celui qui la prononce. Jésus a pu dire ça. Heureux celui qui a faim, il est rassasié, au sens aussi, bien sûr, que c'est en avant, que c'est un chemin et que la satiété est le fruit des promesses et qu'elle est au bout de ce chemin, mais qu'elle est déjà là. Enfin, que...
Non, puis bon, il faut replacer dans le contexte d'un ensemble de ses paroles et de ses actes où il pouvait aussi bien donner du pain, justement, quand les gens ont faim, et donc il ne se désintéresse pas de la question. Cela dit, oui. Et puis il disait, bon, on n'a pas de... l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais vraiment de la parole de Dieu qui subsiste éternellement. Donc en fait, c'est l'idée de... Justement, c'est des paroles provocantes, souvent. On dit, mais comment il peut dire ça ? Heureux ceux qui ont faim, quoi. Alors bien sûr, c'est pas heureux ceux qui ont faim, parce qu'à moi, ça, on le sait très bien. Malheureusement, ceux qui n'ont effectivement pas de quoi manger, bien, on n'a pas les calories suffisantes, le cerveau est mal irrigué, et il ne peut pas être forcément facilement... dans le spirituel, dans, la réflexion. C'est pour ça que c'est si important d'avoir de la solidarité matérielle, parce que concrètement, celui qui crève de faim, il a du mal même à prier, si vous voulez. Donc c'est pas vrai, heureux ceux qui ont faim de pain, quoi. C'est pas vrai du tout. Donc, quoi ?
C'est faim et soif de justice.
Oui, mais c'est ce que disait Jérôme, c'est que c'est chez Matthieu. Mais donc je crois qu'effectivement, Matthieu a raison de le traduire, parce que heureux, enfin, on réfléchit, enfin, il a raison, il a tort, je ne sais pas. Mais on réfléchit, on dit, mais heureux les faim, c'est pas possible, heureux ceux qui ont faim de pain, quoi. En même temps, bon, le pain, c'est pas si grave par rapport à heureux ceux qui ont faim de quelque chose, quoi. Ceux qui sont dans cette recherche, dans cette attente. Alors, faim de quoi ? Ben oui, faim de bonté, faim de justice, faim de présence de Dieu, faim de paix entre les hommes, de paix intérieure, faim de plein de choses.
Le sens de la vie.
Le sens de la vie, mais c'est ça la justice. Hein. La justice, c'est beaucoup plus large dans l'hébreu. Hein. La tzedaka, c'est beaucoup plus large que simplement... que la justice, on pense, bah, les coupables en prison, que les gens respectent les feux rouges, bah oui aussi, mais c'est plus large que ça, c'est que les choses soient belles et bonnes, quoi. Bah, c'est bien ce qu'on feint de ça, parce que du coup, ils sont bien orientés, vous voyez. C'est pas fin de justice pour se faire justice à soi et qu'en fait, mon droit soit respecté. Souvent, c'est vu comme ça. Bah non, c'est pas ça. Là, on le voit plus tard, il y a marqué. Ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est, dans un sens, c'est injuste d'être persécuté pour faire le bien et le bon. Donc non, c'est plutôt faim et soif... d'une justice sur la terre, que ça avance, que ça progresse. C'est comme dans Notre Père, on demande que le règne de Dieu puisse un peu progresser sur la terre comme au ciel, donc peut-être par nous, peut-être aussi par le plan de Dieu qui peut se développer, peut s'actualiser dans le monde un peu plus.
Alors, juste pour terminer, les dernières béatitudes, bien sûr, probablement se font l'écho des inquiétudes de la communauté mathéenne à l'époque de la rédaction de l'Évangile, hein, qui est sûrement face à des persécutions. Persécutions, pas seulement, pas encore de la part du monde romain, mais du monde synagogal, hein, puisque à la fin du 1er siècle, il y a déjà ce schisme qui s'annonce entre la synagogue et les communautés chrétiennes. Et donc, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est probablement une relecture, hein, par la communauté de l'évangile de Matthieu de l'expérience qu'il traverse. C'est comme les pages de l'évangile sur la destruction du temple, etc. Hein, ce sont peut-être pas des propos directement attribuables au Jésus historique, mais en tout cas, c'est un développement dans l'esprit chrétien, dans l'esprit des disciples, de ce que Jésus aurait dit. Voilà. Mais
En même temps, Jésus, de son vivant, donc dans les années 30, hein, pas 1930, mais 30 tout court, et a quand même subi ce tiraillement, forcément. Et pourquoi ? Parce que, comme il le dit ça, c'est bien développé finalement dans les discours de Jean XV, Jean XVI, où il dit vous êtes à la fois dans le monde et hors du monde. C'est-à-dire qu'à travers, même à travers cette faim et soif, il y a une tension entre la terre et le ciel, entre le présent, où bon, les choses sont mêlées finalement, et puis une utopie, un rêve, un projet, un grand souffle. Ben, ne serait-ce que par ça, il y a un tiraillement, il y a une souffrance, hein, forcément. On aimerait l'idéal, et puis en fait, c'est un peu en dessous. Donc ça nous traverse, et notre action dans le monde, ben, on le sait bien, on essaye de faire comme on peut, et puis par exemple, quand on fait des choses bien, on dit souvent en rigolant, hein, les gens nous en veulent toujours du bien qu'on leur a fait. Et puis ils nous sont reconnaissants du bien qu'ils nous ont fait. Bah, c'est vrai, c'est-à-dire cette expérience, Monsieur Perrichon. Il y a cette expérience qu'en fait on essaye de faire le bien et puis qu'on en prend plein la gueule. Mais cela dit, ça, c'est cet écart de l'homme qui est à la fois les pieds sur terre, la tête au ciel et les mains entre les deux qui font ce qu'ils peuvent. Donc ça, je crois que Jésus en a bien témoigné de ça. Et je crois que même si c'est inconfortable, ça ne va pas toujours jusqu'à la persécution, heureusement. Bon, dans notre temps, on a particulièrement de la chance, parce qu'il y a quand même énormément de pays où être chrétien est source de... Les chrétiens, c'est la catégorie de personnes les plus ennuyées, les plus persécutées dans le monde en ce moment, quand même. Et donc, même si on n'est pas persécuté, il y a une tension, quand même. Et cette tension est féconde, nous dit Jésus, je crois. Parce que justement, il y a une vie, quoi. C'est comme entre les bornes d'une batterie. S'il y a une tension, ben c'est là qu'il y a une énergie, une puissance, une dynamique. Ben, nous sommes dans cette situation-là. L'arbre aussi, dans un sens, il est enraciné dans de l'humus, irrigué avec de l'eau, mais il s'élève vers le ciel. Ben, il y a une sorte de paradoxe à vivre, en fait. Et on est toujours dans cet entre-deux, qui est magnifique, je crois. Mais inconfortable, mais un inconfort, un déséquilibre qu'est la vie, en fait.
Et cet entre-deux, c'est le royaume, précisément, oui, hein, qui est à la fois sur terre et au ciel, qui est justice, paix et joie dans l'esprit, comme nous le verrons la fois prochaine. On retrouvera justement un grand persécuteur de chrétiens, saint Paul, puisque ça a été quand même sa première vocation, hein. On parlait de persécution, on va revenir à saint Paul. Persécuteur et aussi quelqu'un qui n'était pas hindou, probablement, encore moins que Jésus. Donc, nous vous invitons à nous retrouver au Temple de l'Oratoire le 12 février pour des extraits de l'Épître aux Romains et de l'Épître aux Philippiens. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'esprit.
Alors, voilà. On a aussi un rendez-vous, en fait, une célébration œcuménique, en fait. Chaque année, on en fait une à Saint-Eustache ou à l'Oratoire. Cette année, c'est à l'Oratoire. C'est donc le 22, je crois, mercredi 22 janvier, à 20h, à l'Oratoire. Donc, vous pouvez venir avec des catholiques, protestants de votre entourage et orthodoxes, et puis les autres aussi.
Et même les autres,
qui seront bienvenus. Et puis, si vous voulez, il y a une cantate avec un... cantate de Bach, donc la cantate numéro 3, et puis une cantate de Noël de Louis-Claude d'Aquin, et puis un Ave Maria de Pierre Pincemaille. Voilà, donc ça c'est le samedi. Vous pouvez prendre le carton, samedi 18 à 18h.
Beau marquage.
Donc bon retour. La cantate, tu peux me donner la célébration œcuménique, c'est à 20h, le 20. C'est le 22, c'est ça? 22
à 20h. Le mercredi 20h.